tout à fait important de pouvoir écouter Annick Rass-Rothschild. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel on va revenir quand on va parler effectivement du diagnostic préconceptionnel. Alors, je pense que s'il y a quelques questions peut-être sur ce qu'a dit Annick, on peut les prendre maintenant. Mais je crois qu'il va falloir... Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Juste une chose aussi qui, pour complexifier encore effectivement le problème, je pense que le problème de la maladie de Gaucher est un problème exemplaire dans sa complexité et qu'il serait, je dirais, très bon de prendre, bien que ça soit une maladie rare et donc relativement peu connue de la majorité des médecins, notamment en France, comme un exemple de réflexion. Parce que effectivement, il y a la mutation la plus fréquente, qui est ce qu'on appelle un faux sens, et dont, tu me corrigeras, mais on ne peut pas prédire a priori si une personne qui est homozygote va développer une maladie sévère ou ne va rien développer de vraiment embêtant avant l'âge de 40 ou 50 ans. Donc c'est vraiment une question à laquelle il est difficile de répondre. Dans des études, en tout cas, que j'avais vues aux États-Unis dans le dépistage de la maladie de Gaucher, donc entre autres, je crois que sur 16 diagnostics prénataux d'enfants qui étaient homozygotes pour cette mutation, 14 couples avaient décidé de garder effectivement l'enfant. Mais ceci implique évidemment une discussion avec un conseiller génétique qui est très très ciblé sur quelqu'un qui sait vraiment qu'est-ce que cette mutation-là veut dire. Donc vous voyez que ce n'est pas simplement... l'autre chose, c'est une maladie qui est traitable, mais je pense qu'il faut aussi dire que le traitement de la maladie de Gaucher, c'est, je crois, 200 000 euros par an pendant la durée de vie de la personne, enfin la durée de sa maladie en tout cas. Elle peut ne pas être malade tout de suite, mais c'est un traitement qui pose quand même un problème économique. D'ailleurs, c'est un traitement dans tous les pays. En France, effectivement, il est appliqué, mais il y a des pays où, effectivement, pour des raisons simplement économiques, il ne peut pas être appliqué. Donc je crois que c'est tout ça. Et je dirais la dernière presque des choses qui sort un petit peu de ce qu'on dit, mais il a été trouvé récemment, cette chose assez étonnante, que ce qu'on appelle les porteurs sains de la maladie de Gaucher, ceux qui ont un risque d'avoir un enfant atteint, sont en fait à prédisposition, un risque multiplié par 4 ou 5, d'avoir la maladie de Parkinson. Mais avoir la maladie de Parkinson à l'âge éventuellement de 50 ou 60 ans. Et ce n'est qu'une prédisposition. Et donc, on peut se dire qu'en faisant le dépistage des porteurs de la maladie de Gaucher, d'une certaine manière, on fait aussi un diagnostic présymptomatique, non pas de la maladie, mais d'un risque plus élevé. Donc, vous voyez, ça prouve que effectivement, ces choses-là sont assez complexes. Alors, ce que je vais proposer juste pour la suite, c'est qu'on passe assez rapidement, parce que comme l'avait dit Ségolène, c'est vrai que la technologie non-invasive pour la trisomie 21 est une évolution. Ce n'est sans doute pas une révolution, mais ça mérite qu'on ait une discussion là-dessus. Et je voudrais peut-être corriger, en tout cas dans l'état actuel de ce qui est proposé. Alors, je cherche mon... Voilà, non, table ronde, voilà. Dans l'état actuel de ce qui est proposé, en tout cas dans les études de validation, et il faut dire une chose, la plus grande de ces études de validation provient de la société Sequenom, qui est celle qui introduit sur le marché, en tout cas américain, cette société. Mais enfin, c'est une étude très sérieuse sur 2000 grossesses qui vient de paraître en mars 2012. Donc, vous voyez, c'est tout à fait récent. Il ne propose pas d'utiliser ça comme diagnostic. Ça reste un test de dépistage qui, pour le moment, n'est pas proposé pour éliminer l'échographie, ni même les marqueurs sériques, c'est en combinaison. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils proposent, c'est que chez les personnes qui ont, sur la base de l'échographie et sur la base des marqueurs sériques, ont un risque, alors ça pourrait être 1 sur 250, ça pourrait être peut-être 1 sur 500, ça c'est à voir, de faire ce test donc, qui consiste à séquencer de manière massive l'ADN libre présent dans le plasma maternel. Et cet ADN, donc ça c'est la découverte du professeur Lo de Hong Kong, qui contient entre 5 et 20% d'ADN fœtal, de la grossesse en cours, c'est ça qui est important. Et donc, ce qu'il propose, c'est d'ajouter ceci au test échographique et au test des marqueurs sériques. Mais, comme ils ont montré, je crois que c'est une publication sérieuse, que à la fois la spécificité et la sensibilité, c'est-à-dire le risque de faux positif ou le risque de faux négatif, était inférieur à 1%, le calcul qu'ils font, c'est qu'en utilisant ce test pour des grossesses, par exemple, à risque de 1 sur 250, on diminuerait de 93% le nombre d'examens invasifs. On continuerait à faire un petit nombre de tests invasifs, mais 5 ou 6% de ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc, cela veut dire aussi diminuer énormément, je dirais, les pertes d'enfants normales liées, ces fameux 1% liés aux gestes invasifs. Et à l'heure actuelle, si vous voulez, on fait ce test invasif suivi du cariotype. Pour finalement, on fait environ 30 tests pour dépister un enfant atteint d'une anomalie chromosomique. Là, on ferait 8 tests qui détecteront 7 enfants atteints. C'est-à-dire que le pourcentage de faux positifs est très faible, ce qui permet donc de diminuer beaucoup. Donc, première des choses, ce n'est pas un test totalement diagnostique. Et d'ailleurs, ce qu'il montre, c'est que ce taux de faux positif de 1%, qui paraît effectivement très faible, si on le faisait dans la population générale où le risque a priori d'avoir un enfant atteint est très faible, on aurait effectivement un nombre de tests faux positifs importants. Donc, de toute façon, il faudrait le contrôle bien diminué du test invasif. Donc, je crois que c'est une première chose. Je crois que ce qu'il faut en dire aussi, et après on va avoir le débat, c'est qu'en tout cas, il y a déjà une guerre de brevets qui se passe aux États-Unis, puisque il y a un brevet, donc je vous ai dit, c'est une idée des données au début qui proviennent de Hong Kong, donc du professeur Lo, qui a fait un brevet, évidemment. Ce brevet a été racheté par Sekenom, et Sekenom dit qu'elle va poursuivre toute autre compagnie qui va essayer de faire ça, à moins d'acheter effectivement le droit de licence du brevet. Donc il y a un premier aspect. Ce test, d'ailleurs, pas seulement pour la trisomie 21, mais aussi pour les trisomies 18 et 13. Et je dirais, parmi les questions qu'on va pouvoir se poser, et dans un débat dont je pense qu'il faut qu'il soit court pour qu'on puisse vraiment garder du temps pour le diagnostic préconceptionnel, c'est d'abord, est-ce que ce diagnostic non-invasif pose-t-il un problème éthique nouveau par rapport aux pratiques actuelles, ou est-ce que c'est simplement une évolution? Et là, je pense qu'on peut se dire que tant que c'est... ça se rajoute au panel, c'est une évolution. Mais peut-être qu'il y a la question, c'est à partir de quel seuil de grossesse à risque? Pour le moment, en France, on utilise le seuil de 1 sur 250. On pourrait utiliser un seuil de risque de 1 sur 500, peut-être, donc ça, c'est une chose. Quelles sont les conséquences économiques? Jean-Pierre Bonnefond là, en a parlé. Et là, je suis, il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a des idées, simplement pour dire que ce test est proposé par la société Sequenom aux États-Unis pour 1 900 $. Mais quand il y a un accord avec les assurances, c'est 230 $ qui revient à la famille. Et d'autre part, dans des documents qui sont des documents de la société Sequenom, mais pour les investisseurs, donc c'est toujours intéressant, on trouve sur Internet beaucoup de choses, donc on trouve notamment les documents pour les investisseurs, ils estiment que le coût du test, une fois que ça aura bien démarré, c'est environ 500 à 600 $ par test. Donc ça permet de voir, en période de production, nous sommes à un test de 500 à 600 $. Donc, quelles conséquences économiques? Quelles conséquences sur l'organisation des laboratoires? C'est ce qu'a aussi la question qu'a posée Jean-Pierre Bonnefond. C'est une technologie qui est quand même très, on va dire, high-tech, qui demande des appareils et une bioinformatique très poussée. Mais surtout, si on l'a fait sur des dizaines de milliers de grossesses, ce qui se fait en France. Hein. Alors, en France, on fait des tests sur, je dirais, il y a à peu près 40 000 grossesses à risque de 1 sur 250. Donc, si on reste à 1 sur 250, c'est, disons, 40 000 tests. Si on passe à 1 sur 500, pour, disons, détecter peut-être plus, pour avoir, en tout cas, pouvoir proposer de détecter plus d'anomalies, ça va passer à 80 000 tests, par exemple. Donc, qui fera ce test? Dans les CHU tels que ça se pratique en France, mais pas complètement, puisqu'il y a les labos privés? Ou est-ce que c'est Sequenom, parce qu'ils ont le droit de brevet là-dessus? Ça pose évidemment cette question qu'il y a peut-être des personnes qui décident de ne pas... Effectivement, la question de ne pas prendre le test invasif, quand on est à risque, ça peut s'interpréter de deux manières. Soit c'est parce qu'on n'est pas favorable à une interruption de grossesse, et donc c'est une décision, évidemment, du couple. Soit parce que, comme souvent les personnes à risque sont des personnes qui sont déjà en fin d'âge reproductif, une grossesse précieuse, ou le 1% de risque d'interrompre cette grossesse par le geste invasif est jugé comme inacceptable. À ce moment-là, on peut se dire que le test non invasif sera plus facilement utilisé. Et il y a une dernière chose. Alors, je crois que c'est important à dire. Même s'il y a de l'ADN fœtal dans le sang à partir de la 7e semaine, la validation, et je crois que, nous, comme l'a dit Yanné, non, c'était monsieur Godillière, la question, c'est d'avoir des tests qui soient validés, dont on sait exactement quel est le pourcentage faux positif, faux négatif. À l'heure actuelle, ce qui est validé, c'est un test qui est au plus tôt à la 10e semaine. 10e semaine, ça veut dire que le résultat du test probablement sera au plus tôt à la 12e semaine. Alors, pourquoi c'est important la 12e semaine? Parce que la 12e semaine, c'est en France, en fait, avec la législation française, la différence entre pouvoir faire une interruption volontaire de grossesse où il n'y a pas de médecin qui est impliqué, il n'y a pas de discussion sur des aspects médicaux, c'est simplement décision du couple et de la femme, ou après la 12e semaine, où ça devient une interruption médicale de grossesse. Et donc, je dirais qu'une des questions qu'on pourra se poser, c'est est-ce que, si ce diagnostic se développe, est-ce qu'il faudrait en interdire, pour ces raisons IMG versus IVG, de donner le résultat avant 12 semaines, ou au contraire, c'est une histoire de choix et que... On estime qu'il faut pouvoir effectivement faire ce diagnostic avant 12 semaines. Et la dernière chose, comme l'a dit Madame Benachi, on utilise déjà pour du diagnostic de sexe cette technique, mais dans des indications médicales précises de maladies qui ne touchent que les garçons, des maladies liées au X. La question, c'est si une compagnie décide d'utiliser ça pour faire un diagnostic de sexe à la 8e ou 9e semaine, donc permettant une interruption volontaire de grossesse, est-ce que cela est acceptable ou non, doit être interdit par la loi, sachant que, évidemment, et c'est dans le texte du Comité national d'éthique qui a été donné dans le document que vous avez pu prendre, les tests génétiques peuvent être aussi faits ailleurs qu'en France, peuvent être commandés sur Internet, alors il faut quand même envoyer un prélèvement ailleurs qu'en France. Donc c'est certain que ce qui est interdit en France, pour ceux qui veulent absolument faire du tourisme prédictif, ils pourront aller le faire ailleurs. Mais je crois que ce n'est pas parce qu'on peut faire des choses ailleurs qu'il faut ne pas interdire. Alors, je crois, on va discuter de ceci. Alors, je voudrais juste vous signaler qu'on a mis au point de manière peut-être un peu hâtive un questionnaire sur ce que vous pensez, sur ce que les gens qui sont ici pensent de ces questions. C'est donc quelque chose qui prend 10 minutes sur Internet à remplir, de manière anonyme, mais c'est pour avoir, de manière, je dirais, non scientifique, puisque ce n'est pas une enquête tout à fait rigoureuse, mais pour avoir une idée de ce que les gens qui ont assisté, donc c'est sur genetic.blogspot.fr, savoir qu'est-ce que les gens qui ont assisté à cette table ronde pensent. Donc, je pense qu'on peut passer ou juste... Oui, mais...
Juste plusieurs petites précisions. D'abord, l'interruption médicale de grossesse, il faut faire attention si on parle de semaine de grossesse ou semaine d'aménorrhée. Donc les tests sont accessibles à partir de 10 semaines d'aménorrhée et l'interruption médicale de grossesse est jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Donc ça laisse encore un temps beaucoup plus long. Juste volontaire de grossesse, pardon. Pour parler du sexe fœtal, c'est un faux problème. Le sexe fœtal, on peut le déterminer à l'échographie à partir de 11 semaines d'aménorrhée avec 90% de fiabilité. 96% de fiabilité à 12 semaines, 100% à 13 semaines d'aménorrhée. Les patientes qui veulent avoir recours à l'ADN fœtal pour déterminer le sexe fœtal ne peuvent pas le faire en convenance, elles peuvent faire des échographies. Et il n'y a pas d'interdiction en France comme en Inde à l'échographiste de donner le sexe du fœtus à l'échographie. Donc on leur donne le sexe de leur fœtus. Si elles veulent interrompre parce qu'elles attendent un garçon ou une fille et que ça ne les arrange pas, elles n'ont pas besoin de l'ADN fœtal en France. Donc c'est un faux problème. Et aujourd'hui, vous tapez sur Internet, pour 35€, il y a un test qui s'appelle bleu ou rose, au Brésil ou aux États-Unis. Vous achetez votre test, vous envoyez un petit peu de sang par Internet, ça vous revient 3 jours après, fille ou garçon, avec une fiabilité de 96%, à peu près comme l'écho. Donc vraiment, le sexe fœtal, dans notre société, c'est un faux problème. C'est-à-dire qu'on a été accusé... travailler avec Jean-Marc Costa justement sur le fait d'avoir généralisé ce test, c'est un énorme bénéfice pour les patientes qui sont à risque de transmettre une maladie liée à l'X. Ça permet d'éviter de faire une biopsie trophoblaste pour savoir si elles portent un garçon ou une fille et de ne prélever que les femmes qui portent un garçon. Donc c'est vraiment un énorme avancée pour ces femmes, comme pour celles qui ont une hyperplasie congénitale des surrénales à qui on peut faire le diagnostic de sexe à 7 semaines d'aménorrhée. Et donc il n'y a pas de problème avec ce test en France parce que les patientes ont accès à l'échographie, que maintenant on a vraiment des très belles échographies et qu'on peut faire le diagnostic de sexe à l'écho.
Mais est-ce que vous pensez que ça peut poser un problème de finalement d'avoir ce choix de l'interruption volontaire en fonction du sexe? Alors, s'il est rarissime, effectivement, on va se dire...
Je pense que c'est extrêmement rare, dans notre pays.
C'est ça, dans notre pays.
Bon, en Inde ou en Chine, c'est un vrai problème de santé publique. Mais pour nous, ça concerne extrêmement peu de patientes. Et de toute façon, on n'aura aucun moyen de le savoir. Alors, avec Jean-Marc Costa, on va lancer justement un questionnaire auprès des femmes, des médecins, des sages-femmes, mais surtout auprès des femmes enceintes en France, à très grande échelle, pour savoir justement ce qu'elles pensent de l'arrivée de ces tests non invasifs. Et dans les questions, il y a est-ce que vous avez eu recours aux tests non invasifs sur Internet pour savoir si vous attendiez un garçon ou une fille. Donc, comme c'est complètement anonyme, peut-être qu'elles vont répondre.
Y a-t-il d'autres commentaires, peut-être Michel Wekmans, non, sur la manière d'introduire ou pas ces tests en France.
Il y a une dame là-bas, là, je sais pas.
Oui. Alors, oui, si vous êtes loin, on va. Oui, comment se sont passées les choses au début ?
Il y a un comité national d'éthique. Il y a l'égalité entre les gens. Il n'y a pas de, il n'y a pas de différence. Enfin.
La différence, c'est le mariage forcé ou arrangé ?
D'abord, il n'y a jamais de mariage forcé. Ça n'existe pas. Dans la petite population dont j'ai parlé, qui représente une toute petite portion des Juifs, donc ça fait vraiment une super petite portion, les mariages sont arrangés, c'est basé sur des choses qui sont philosophiques et morales, qui ne sont pas très très bien connues en France, mais il n'y a jamais de mariage forcé, ça n'existe pas. Okay. J'ai répondu à votre question ? Non, chez les Juifs orthodoxes, on ne va pas au lit avec un monsieur avant de se marier. Ça n'existe pas. Ou alors, si ça existe, on ne sait pas.
Non, moi, je voulais dire que l'expérience qui a été relatée d'Israël est en fait la continuation, encore une fois, parce qu'il n'y a jamais rien de nouveau sous le soleil, d'expériences de dépistage systématique dans des communautés bien identifiées où le risque, par exemple, de maladie de Tay-Sachs était très élevé. Moi, quand je travaillais à Montréal avec Michel Wekmans dans les années 80, c'était proposé à la communauté juive ashkénaze canadienne, de même qu'à New York, etc. Donc, en fait, on a une très, très longue expérience sur ce type de proposition qui marche toujours très bien quand il y a une adhésion de cette communauté-là, qu'il y a une reconnaissance que la maladie est un vrai problème pour la communauté et qu'il faut faire quelque chose pour essayer de diminuer le fardeau et empêcher que des enfants et des adultes souffrent. Donc je crois qu'on peut faire ça avec beaucoup de sagesse et qu'il y a des exemples nombreux, comme ce qui s'est passé en Sardaigne, en Sicile, etc. Voilà, mais il y a beaucoup de populations où il n'y a pas de maladies qui ont des taux de prévalence suffisants pour que toute la communauté soit consciente du problème. Donc on a le problème de la rareté des maladies et donc de leur invisibilité, de leur non-connaissance par les gens, qui rendent à ce moment-là le débat très difficile, parce que quand on parle de la maladie de Tay-Sachs dans la communauté juive, les gens savent ce que c'est, donc on peut en débattre, alors que quand on parle de maladies très très rares, les gens ne la connaissent pas et du coup le débat est très difficile. Donc il faut faire, je pense, la distinction entre les maladies connues par la population générale et les maladies totalement inconnues, parce que là, il faut faire toute l'information, et là, c'est extrêmement difficile.
Mais je pense quand même que, par exemple, si vous prenez l'exemple, dans l'exposé que je vous ai montré, je vous ai parlé des maladies qu'on proposait à toute la population, et puis après, des choses qui sont ciblées en fonction des origines des gens. Dans toute la population, par exemple, la spinal muscular atrophy, il y a des taux de comment dire.
Porteurs, oui.
Des taux de porteurs de 1 sur 50. La mucoviscidose, c'est 1 sur 25. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ferait un dépistage de la mucoviscidose en période néonatale, ce que je comprends très bien en tant que pédiatre, puisque ça évite d'être égaré dans le monde médical avant de faire un diagnostic à l'âge de 3 ans quand on n'a plus de poumons. Je comprends très bien, mais pourquoi est-ce que c'est exclusif aussi de faire un dépistage de gens qui sont porteurs des mutations fréquentes de la mucoviscidose chez les gens qui choisissent de le faire. C'est des questions que je pense pas qu'on peut faire des des réflexions qui soient exclusives complètement de chaque chose. Il faut qu'on s'habitue à ouvrir notre cerveau et regarder les choses de manière aussi par le regard des gens qui veulent se servir de ces tests. Je pense que la maladie de Tay-Sachs c'était un grand succès parce que c'est une horreur, parce que c'était fréquent dans une population bien ciblée. En Israël, jusqu'il n'y a pas longtemps, tous les hommes savaient qu'avant de faire un enfant, on va au ministère de la Santé, on testait les hommes parce qu'on les testait sur le plan biochimique et que quand une femme est enceinte ou qu'elle prend des médicaments, le test biochimique il peut être anormal. Donc les hommes savaient que s'ils veulent faire un enfant, ils vont au ministère de la Santé, ils donnent du sang et pratiquement on ne voyait plus de maladie de Tay-Sachs. On a recommencé à avoir des enfants atteints dans les populations qui ont émigré de Russie ou d'Europe qui n'avaient pas l'éducation que les jeunes en Israël avaient. Donc vous voyez à quel point l'éducation peut être très, très... C'est un point qui est très important. Et quand on venait, par exemple, moi, je ne me suis pas du tout fait examiner pour la maladie de Tay-Sachs. J'ai grandi en France, personne ne m'a jamais demandé chez un médecin si j'étais juive, ashkénaze ou je ne sais pas quoi. Et je n'avais pas l'éducation. Et même, j'étais médecin. Donc je pense que c'est un point qui est très, très important. Je peux parler encore longtemps, alors j'arrête.
Oui, Michel, peut-être sur l'aspect trisomie 21, puisque je pense qu'il est important qu'on peut-être termine la discussion sur cet aspect.
Oui, je voulais juste donner quelques précisions concernant le test, puisque nous sommes impliqués dans une étude pour le moment à PHRC avec Jean Wessenbach et Yves Ville, et qui montre que le test est très robuste et qu'on parvient, disons, avec une très grande sensibilité, une très grande spécificité à détecter la trisomie 21 ainsi que les autres anomalies chromosomiques les plus communes. Le point qui était très important aussi et que Jean-Louis Mandel a souligné, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une réflexion, puisque tu posais la question de mise en application dans la population, on n'est pas du tout dans une réflexion de diagnostic, on est vraiment dans une réflexion d'ajouter un test au screening qui est déjà pratiqué très largement ici en France. Donc, on n'est pas, c'est addition versus remplacement, et on n'est pas du tout aujourd'hui dans une politique de remplacement de, du diagnostic invasif par l'utilisation de ce test en utilisant l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel. Donc l'impact, comme Jean-Louis l'a dit, est très important en termes diminution importante, très importante je dirais même, des tests invasifs et également d'une diminution très importante par conséquent du nombre de fausses couches. Ça c'est extrêmement important.
Michel, je comprends très très bien que vous soyez dans une phase d'expérimentation de PHRC, mais ça va rapidement glisser, bien évidemment, à partir du moment où ces tests vont devenir robustes. Ah,
c'était mon deuxième commentaire. Alors,
ils vont remplacer.
Il faut bien noter. Excuse-moi, Dominique. Il faut bien. C'était le deuxième commentaire en fait, mais je pense que tu m'amènes à ce commentaire. C'est quand vous analysez très en détail les papiers qui ont été publiés aujourd'hui, ce qui est clair, c'est la validité analytique du test est démontrée. Et nous l'avons fait également. Ce qui n'est pas démontré aujourd'hui, c'est la validité clinique. Parce que la prévalence de la trisomie 21 et des autres anomalies chromosomiques dans ces études ne reflète absolument pas ce que vous observez dans la population générale. Donc il y a un problème de prévalence et de facto un problème de valeur prédictive du test. Et par conséquent, prendre le test, c'est-à-dire séquencer l'ADN fœtal circulant en sang maternel et ajouter ce test au dépistage habituel qui est utilisé en utilisant la clarté nucale ainsi que les marqueurs sériques, va augmenter de façon très importante l'exactitude du test. Voilà. Donc, il reste à faire aujourd'hui, et pour Sequenom, et pour les deux autres compagnies qui sont déjà sur le marché et qui s'envoient aujourd'hui les avocats les unes aux autres, il reste aujourd'hui la nécessité de démontrer la validité clinique de cette application et bien entendu associée à cette étude. Donc, je pense et associé à cette étude l'étude de l'utilité clinique, donc l'aspect dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, ça reste vraiment encore dans le domaine de la recherche.
Jean-Paul ? Oui, je voulais juste faire une petite remarque sur les questions que soulevait Jean-Louis Mandel autour des enjeux de propriété intellectuelle et de construction de marché spécifique des tests, en écho à ce que vous disiez, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'enjeux légaux, spécifiques, techniques, ça a des liens importants avec la manière dont on conçoit l'extension ou la non-extension de ces tests au-delà du cas de la trisomie 21 et des trisomies. Parce que ce qui se produit autour de séquenomes aujourd'hui, c'est des choses qu'on connaît déjà, qu'on a connues dans les 25 dernières années de développement des biotechnologies plus généralement et des tests génétiques plus spécifiquement, qui est une logique de plateforme, et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la bataille de brevets pour séquenomes est d'autant plus importante, parce que l'enjeu ne porte pas sur telle ou telle séquence ou tel marqueur associé à la trisomie 21 ou non, il porte sur la technologie elle-même et sur, du coup, la possibilité d'utiliser l'ensemble de cette procédure sur d'autres pathologies, d'autres indications. Et la logique de plateforme correspond ici à l'idée de mettre en place un dispositif qui est un dispositif de test qui pourra être offert de manière beaucoup plus générale. Ce d'autant plus que, bon, ce que vous indiquez sur les coûts, spécifiquement dans le cas des tests pour trisomie 21 et 18 et 13, on va se retrouver effectivement dans des niveaux qui sont relativement faibles, et là où le contrôle de la technologie et le monopole de la plateforme peut avoir des effets importants, c'est sur la palette d'ensemble, c'est-à-dire qu'au moment où l'enjeu, ce sera le séquençage du génome dans son ensemble.
Il y a, je crois, Annick qui voulait poser une question ou intervenir.
Par rapport à ce test-là, quand vous regardez les anomalies du sexe, enfin, c'est une discussion qui a déjà eu lieu ou pas, je ne sais pas, parce que si on trouve par exemple XYY ou XXY, vous regardez aussi la quantité...
Que les autosomes, ok. Supplémentaire, la technologie que vous testez, c'est celle de séquenome ou c'est la même technologie que vous avez redéveloppée en France ?
Nous avons reproduit à partir des publications.
Bien, je pense que peut-être il y aurait certainement encore des choses à dire, mais ce qui est certain en tout cas, c'est que sur l'activité de cytogénétique de dépistage de trisomie 21, ça, l'introduction de ces tests aura un effet majeur de diminution d'activité pour les laboratoires qui font ces tests cytogénétiques. Mais comme ils ont beaucoup d'autres tests à faire maintenant pour toute une série d'autres anomalies chromosomiques, je pense que c'est un changement d'activité, mais ils ne seront pas mis, je pense, au chômage. Donc, je crois qu'on va peut-être changer maintenant un petit peu, au moins en partie, des panélistes, puisque là, on va passer au diagnostic préconceptionnel. Donc, je voudrais inviter notamment Madame Ouyad, qui représente l'AFM. Arnold Munich, est-il encore là ? Ah, il est parti. Bon. Et j'inviterai Monsieur Jean-Yves Ledéo. Mais je pense que Dominique Bonneau, tu restes. Je crois qu'il y a un certain nombre de toi, tu, oui, effectivement. Jean-Paul, peut-être, si tu veux venir, ou puisque c'est des aspects plus proches de ce que tu fais. Alors, juste une courte introduction de nouveau pour dire de quoi on parle et disons pourquoi on en parle. Je crois qu'une différence très importante entre ce qui a été fait en Israël et ce qui, je dirais, est théoriquement possible, c'est que dans les expériences, que ce soit en Israël ou à Chypre, en Sardaigne, etc., on se basait principalement sur des maladies spécifiques qui étaient particulièrement importantes dans une population donnée. La thalassémie dans les pays méditerranéens. Et là où on peut faire une éducation, et c'est ce qui a été fait, je dirais que c'est très important, à chaque fois qu'il y a eu des programmes réussis, c'est parce qu'il y a eu une éducation. À chaque fois qu'il y a eu un programme raté, comme celui de l'anémie falciforme, c'est qu'il n'y a pas eu d'éducation de la communauté ciblée. Mais on était dans le cas de maladies particulièrement fréquentes dans une population donnée et où donc la connaissance de cette maladie peut être donnée. Et effectivement, quand Annick parlait de ce qui se fait dans des villages, c'est aussi lié au fait que dans certains villages, de certaines populations, il y a beaucoup de consanguinité, avec des effets fondateurs dans le village, et donc vous avez des choses où vous avez une maladie donnée qui va être importante dans un village druze et pas dans le village, je dirais, d'arabes chrétiens d'à côté, etc. Mais ça, c'est une situation qui est très particulière à des populations relativement différenciées. C'est certain qu'en France, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'a priori, il y a un village particulier. Et autrement, aussi en France, c'est vrai qu'il y a quelques maladies qui sont plus fréquentes que d'autres, la mucoviscidose, l'amyotrophie spinale ont des fréquences de porteurs sains entre 1 sur 30 pour la mucoviscidose, 1 sur 50 ou 60 pour l'amyotrophie spinale. Mais tout le reste, ça va être des maladies rares ou très rares. Mais alors, je vais chercher ma... Quand on commence... Donc voilà, donc ici, c'est cet article qui a, je dirais pour moi, un peu démarré cette idée de faire cette table ronde. Donc, c'est un article où ils disent que grâce au séquençage à très haut débit, on peut détecter chez tout un chacun, et pas tout un chacun qui fait partie d'une population à risque spécifique d'une maladie donnée, mais de dire que nous sommes finalement tous à risque très faible, mais multiplié par 800 000 couples chaque année, très faible, d'avoir des maladies extrêmement rares. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est sur 104 individus, ils ont mis au point le test de séquençage de ce qu'on appelle les parties codantes, donc les parties, je dirais, les plus importantes du gène. C'est pas tout le gène, on peut louper des choses. Donc, 437 gènes ciblés qui correspondent donc à autant de maladies pédiatriques graves. C'est leur définition qu'ils ont pris. Et ils ont exclu, je ne sais pas exactement pour quelle raison, les gènes qui sont impliqués simplement dans des déficits cognitifs. Donc, c'était des maladies pédiatriques graves, mais n'y entraient pas des maladies qui sont responsables de ce qu'on appelle, encore dans notre pays en tout cas, du retard mental, qui est aussi quelque chose de pédiatrique. Et ce qu'ils ont montré, c'est que techniquement, ça marche bien, c'est-à-dire qu'il y a 100% de spécificité, ça veut dire que quand ils trouvent une mutation, techniquement, c'est bien une mutation. On va voir ensuite. Et la sensibilité, 95%, c'est-à-dire qu'il y a des régions quand même de ces gènes qui sont un peu moins bien séquencées et on peut louper des choses. Mais de toute façon, dans la mesure où on ne séquence pas tout le gène, on peut de toute façon louper des choses qui sont dans des régions du gène, telles que les introns qu'on ne séquence pas. Le problème, c'est que si on les séquençait, on ne saurait pas interpréter les séquences. Donc ça veut dire que de toute façon, et pour pas mal de temps, on ne sera jamais exhaustif, quelle que soit, je dirais, la maladie. Ce qu'ils trouvent aussi, et c'est que quelle que soit l'origine ethnique, et c'est là que c'est important, c'est qu'il y a une moyenne d'environ, pour ces 435 gènes, de 2,8 mutations par individu. C'est-à-dire que s'il y a des effets fondateurs qui font que telle maladie est plus fréquente chez les Juifs ashkénazes ou telle maladie est plus fréquente à Chypre, d'une manière générale, le poids de mutations responsables de maladies récessives est à peu près le même quel qu'il soit. Il est réparti de manière éventuellement différente selon les maladies, mais le poids est le même. Et la dernière chose, c'est que disent un des problèmes qu'ils ont trouvé, c'est dans, déjà celui de l'interprétation. Parce que pour cette interprétation, on se réfère à des bases de données qui disent ça c'est une mutation, ça c'est pas une mutation. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ces bases de données, parce que ces bases de données se sont accumulées au cours d'un développement progressif de ces technologies, sans qu'on sache, et il y a des erreurs qui ont été commises. Alors, je passerai. Les Anglais qui ont proposé, qui ont fait le Human Genetic Commission, un rapport très complet sur cette histoire du diagnostic préconceptionnel, donc dans la population générale, pour des maladies graves, considère que le dépistage préconceptionnel ne pose, dans leur vue, aucun problème spécifique de éthique légale ou sociale qui ferait de ce dépistage quelque chose d'inacceptable au niveau d'une population. Et ils disent, il y a même de très bonnes raisons pour faire un dépistage plus précoce que plus tardif. Plus tardif, c'est pendant qu'une grossesse est en cours. Comme cela faciliterait un choix plus large d'options pour les patients, c'est-à-dire pour les couples, et un accès amélioré à une information qui peut permettre la décision, de prendre la décision pour les couples. Donc, pour eux, la question, c'est de rendre ceci disponible comme un choix, et disponible largement. Mais il faut dire qu'il n'y a aucune discussion dans ce rapport du choix des maladies pour lesquelles le diagnostic préconceptionnel pourrait être proposé, quelles limites. Par exemple, Nick a parlé de cette surdité génétique liée par exemple à la cholecystine, mais il y a beaucoup d'autres. On peut par exemple faire de la différence entre des surdités qui peuvent être appareillées, des surdités qui ne peuvent pas être appareillées. Peut-être on pourrait devenir beaucoup plus fin, mais ça pose un problème. Effectivement, est-ce que c'est un choix qu'on laisse ou est-ce que c'est un choix qu'on décide d'interdire? Donc ça, c'est une chose. Alors, dans dans ce que je vous avais passé comme document, il y a aussi ces fameux avis 107 du Comité national d'éthique, qui s'était, il s'était déjà interrogé en 2003 sur le dépistage, par exemple, des porteurs de la mucoviscidose dans la population, et avait exprimé certaines réticences qu'il continue effectivement en 2009 à donner, et notamment en raison de l'incertitude quant à la gravité de l'expression de la maladie. Et ça, c'est le problème qu'on a évoqué pour Gaucher, c'est-à-dire qu'il y a des mutations, quand on les trouve, on est assez sûr que ça va être sévère et on peut assez bien prédire, disons, la sévérité. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile. Et donc, si je ne sais pas si Patrick est encore là, oui, tu es encore là, mais d'après ce que j'ai pu comprendre de cet avis, dans la mesure où, effectivement, il y a des cas où on n'est pas sûr de la sévérité, on est réticent. Mais ça veut dire qu'on a ôté aussi, d'une certaine manière, le choix pour des mutations où, elles, on serait sûr de la sévérité. Et il y a eu récemment un papier de Claude Ferrec, donc le groupe qui est à Brest, qui est très grand spécialiste de la mucoviscidose, avec des données d'épidémiologie sur la mucoviscidose, où on a vu que suite à, au dépistage dans les familles ayant eu un enfant atteint de mucoviscidose, c'est pas le dépistage, mais le diagnostic prénatal possible, le nombre de naissances d'enfants atteints de mucoviscidose à partir des années 90 a baissé de 40% en Bretagne par rapport à ce qu'il était, mais que c'est resté stable depuis. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, cette proposition de diagnostic prénatal a permis de proposer à une famille ayant déjà un enfant atteint de ne pas avoir un deuxième enfant atteint. Mais par contre, elle n'a pas du tout eu d'effet sur la naissance, quasiment pas, d'un premier enfant atteint. Donc la question que je pose, c'est est-ce que il est plus éthique de permettre le choix à une famille d'éviter un deuxième enfant atteint que d'éviter, si tel est leur choix, un premier enfant atteint d'une maladie grave. Donc je crois que je vais passer. Alors, il y a aussi une autre chose dans ce que dit cet avis.
Je pense qu'il faudrait quand même, Jean-Louis, oui. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse donner la parole aux intervenants. Parce
oui,
que
mais tout de suite, mais juste pour citer le CCNE, le risque lié à la tentation de privilégier l'élimination anténatale plutôt que la recherche des moyens de guérir les maladies et celui de se voir multiplier des situations génératrices d'anxiété, des arrêts de grossesse précipités et inappropriés. Et donc, j'en viendrai aux questions, excusez-moi, mais... Voilà. Donc, c'est un petit peu les questions que je pensais...